Here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour, 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 chères auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du 8 novembre 2023. Vous vous souvenez, pour notre dernier direct, nous étions en compagnie de Exécuteur 14, ce personnage effrayant créé par Adèle Hakim dans les années 90. Et la semaine dernière, vous étiez au Japon dans les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale avec Marguerite Duras et Hiroshima, mon amour. Alors la guerre, hélas, elle continue un peu partout. C'est une horrible constante de notre monde et on va quand même un petit peu essayer de lui échapper. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé au début de l'automne de portraits de femmes africaines. J'avais envie de parler ou de citer plutôt des romans ou des livres qui nous livraient justement des portraits de femmes africaines que j'aimerais faire défiler au fil des semaines. Alors, je vais revenir à ce projet. En même temps que s'ouvre aujourd'hui au MUCEM la grande expo de l'automne qui s'appelle « Une autre histoire du monde ». Une autre histoire du monde, l'exposition se propose de porter justement un regard un peu moins européocentré sur l'histoire. Et nous allons essayer de contribuer à ce regard différent. Dans les semaines à venir, en regardant justement les réalités qui nous entourent, ici et ailleurs, avec aussi peut-être un regard différent. Nous lisons donc aujourd'hui un roman récent de Faïz Aghen. Il s'agit de La discrétion. La discrétion est parue en 2020 et ce que j'ai aujourd'hui en main, c'est l'édition Pocket qui date de 2022. Donc, ce roman, je vous le recommande chaleureusement. C'est un portrait de femme très attachant, avec autour d'elle d'autres hommes, d'autres femmes d'abord et des hommes bien sûr, qui apparaissent tour à tour dans leur quotidien avec leur ressenti du monde qui nous entoure. Faïz Aghen, c'est une jeune autrice de 38 ans déjà, qui a été révélée au grand public par son premier roman, Kif Kif Demain, en 2004. Elle avait alors 19 ans et ce roman brillant l'avait fait surnommer « La Sagan des banlieues ». La Sagan des banlieues a donc pris un peu de bouteille et son écriture est devenue un peu plus mûre. Elle est toujours pleine de vie, pleine d'élan. Elle nous montre des personnages qui sont de vraies personnes aux existences fondées sur une réalité historique, sociologique, avec des reflets vraiment très attachants du monde qui les entoure et qui nous entoure. Donc, dans la discrétion, le personnage principal est Yamina, une femme née en Algérie en 1949, ayant vécu un certain nombre d'années au Maroc et puis arrivant en banlieue parisienne dans les années 70. Alors, à travers elle, ce sont à la fois des points de l'histoire de l'Algérie, du Maghreb et de la France qui apparaissent sous des couleurs pas toujours flatteuses, mais bien contrastées. Le roman est construit sur une alternance de petits récits du présent et du passé. Le présent, donc, en région parisienne, Yamina avec ses voisins, ses enfants. Et puis les retours sur le passé, Yamina en Algérie ou au Maroc, ses parents, son enfance, le contexte historique et beaucoup d'éléments qui nous créent une vraie personne. J'ai d'abord eu envie de déconstruire le récit pour vous livrer des portraits distincts à différentes époques. Et puis en fait, j'ai décidé de préserver le balancement du roman avec ses allers-retours présents, passés et ses alternances de personnages. Ah oui, vous avez remarqué, je suis encore enrhumée. Donc, la colonne vertébrale du roman, ça reste Yamina. Elle est vraiment le centre de l'histoire. Et c'est vraiment son regard, ou à travers son regard, que nous découvrons le monde de la discrétion, avec pour commencer la dédicace et les citations. La dédicace de Faïza Guen, c'est bien à ma mère et à toutes nos mères. À ma mère, oui, puisque c'est sûrement sa mère qui a inspiré le personnage de Yamina, mais toutes les mères aussi, toutes nos mères, puisque en fait, les mères autour d'elle, les mères de son enfance en banlieue parisienne, bah oui, vous savez, vous les connaissez, ces mères toujours présentes quand il faut, quand on a besoin d'elles. C'est en effet la grande dédicace qui ouvre le roman à toutes nos mères. Et puis une citation de James Baldwin, le grand écrivain américain. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à nos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. Alors effectivement, ce que dit James Baldwin, là, c'est qu'il faut être fort pour ne pas haïr ceux qui nous haïssent, et il ne faut pas non plus transmettre la haine. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans ce portrait de Yamina, puisque Yamina, c'est la discrétion, elle ne hait pas, même si elle est souvent blessée, elle garde ça pour elle. Et surtout, en effet, elle ne transmet pas la haine et elle essaye au contraire d'apaiser ses enfants lorsque eux se révoltent vis-à-vis de la réalité sociale dans laquelle ils sont plongés. Donc nous allons maintenant découvrir Yamina et ses enfants, Yamina à l'extérieur, Yamina à la maison. Et c'est Françoise qui va nous lire ça. On est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 93-300, en 2018.
Yamina a bientôt 70 ans. Elle les aura en novembre prochain, soit le 10, soit le 19. Yamina est née un jour ou l'autre.
Ah, François, je suis enrhumée.
Sur les papiers algériens, elle est du 19, mais sur sa carte de résidence française délivrée en Seine-Saint-Denis, il est inscrit « Née le 10 novembre 1949 à Msirda Fouaga, Algérie. »
Oui, c'est presque son anniversaire, Yamina.
À qui se fier ? Au moins, elle n'a pas une date présumée. Elle a échappé au fameux 1er janvier attribué aux indigènes par défaut. Les usagers n'hésitent pas à lui céder leur place dans le 173, le bus qu'elle prend chaque samedi matin, station Fort d'Aubervilliers, en face de la poste. Elle va faire le marché à la mairie et achète toutes sortes de choses inutiles. La plupart du temps, ce sont des objets en plastique et des gadgets ménagers révolutionnaires dont les camelots font la démonstration au micro-casque, perchés sur leur estrade. Littéralement fascinée, Yamina pourrait rester des heures devant ce spectacle. Éblouie, elle applaudit parfois à la fin du numéro, même si le résultat n'est pas très convaincant. Elle n'est pas de nature suspicieuse. Elle ne pense pas qu'on essaie de l'arnaquer. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Elle a envie de croire au miracle que le gitan expose avec ferveur. D'ailleurs, c'est assez facile pour Yamina. Son cœur croit sans qu'elle ait à le forcer. Yamina repart avec son gadget et l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Le marché de la mairie d'Aubervilliers est un rituel important pour Yamina. Elle s'y rend seule, y croise quelques copines, en évite d'autres. Surtout les journalistes, c'est comme ça qu'elle surnomme celles qui posent trop de questions. « Et tes filles, toujours pas de mariage en vue ?» Yamina reste polie, s'en remet à la destinée. C'est Dieu qui décide. Elle rentre chez elle en réfléchissant à ce qu'elle pourrait préparer pour le déjeuner. Elle se hâte de reprendre le 173 dans le sens inverse. Elle aime bien présenter sa carte Navigo forfait améthyste au chauffeur qui lui jette un bref regard derrière ses lunettes au verre fumé. Yamina fait ça en imitant les inspecteurs de police des séries télévisées qu'elle regarde sans s'en rendre compte. Lorsqu'on l'invite à s'asseoir, systématiquement, Yamina commence par refuser. Non, merci, ça va, c'est gentil. Prétendant être capable de tenir debout au milieu du bus, coincée entre deux poussettes. Elle fait comme si son équilibre n'était jamais en péril, comme si ça ne secouait pas dans le virage de la rue Daniel Casanova. Non pas qu'elle se sente offusquée qu'on lui propose de s'asseoir en raison de son âge, au contraire, elle apprécie les bonnes manières. C'est plutôt qu'elle n'aime pas qu'on se dérange pour elle. Il faut beaucoup insister avant qu'elle se décide à dire oui. Elle fait pareil quand les adolescents qui fument du mauvais shit au pied de l'immeuble lui proposent de porter ses courses. « Ça ira, mes enfants, je vais me débrouiller. » Alors ils insistent, ils ont l'habitude avec elle. Il faut presque lui arracher les sacs des mains. Elle finit par céder en souriant et ne cesse de les remercier jusqu'à la porte. Attendrie par leurs gestes, elle leur dit avant de refermer « Vous êtes de braves garçons ». L'idée de vieillir n'effraie pas Yamina. Depuis quelques années, elle ressent même une certaine quiétude. On dirait qu'elle n'est pas embarrassée par les petits tracas de l'âge. De toute façon, Yamina ne se plaint jamais. C'est comme si cette option lui avait été retirée à la naissance. Elle a pourtant quelques soucis de santé qui l'obligent à prendre des médicaments deux fois par jour pour réguler diabète et hypertension. Tous les deux mois, elle se rend au laboratoire d'analyse médicale. La marque, rue Hélène Koschenek, pour faire des prises de sang. Elle apporte les résultats à son médecin traitant qui la suit depuis 2003. Le cabinet est au fond d'une impasse dans un pavillon vieillot. Ici, on ne prend pas de rendez-vous. On y va et on attend. Ça peut durer des heures. Sur la table basse poussiéreuse, il y a des magazines éparpillés du genre Challenge ou Management. En consultation, le médecin se contente du minimum. Il ne va pas beaucoup plus loin que les examens routiniers. Ce qui est remarquable, c'est qu'il tutoie Yamina, non parce qu'il y a une quelconque intimité entre eux, ni même parce que c'est un homme particulièrement chaleureux. Il la tutoie après avoir dit « Madame Yamina ». Par exemple, il demande « Alors, Madame Yamina, tu as bien pris tes petits cachets ?» Ou « Madame Yamina ». « Ça ne va pas le diabète en ce moment. Tu as mis trop de sucre dans ton thé à la menthe ?» Et c'est absurde, mais Yamina l'aime bien. C'est probablement l'habitude. 15 ans déjà qu'elle vient ici. Elle lui est fidèle. Elle n'a jamais songé à le quitter. D'ailleurs, elle s'enquiert toujours de la santé de son médecin. C'est assez cocasse. Elle est probablement la seule de ses patientes à lui demander comment il va et à prendre des nouvelles de sa famille. Elle le fait avec une sincérité déconcertante. Elle ne perçoit aucune condescendance dans le ton qu'il emploie avec elle, même lorsque, sous prétexte d'humour, il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard pour y regarder à l'intérieur avec son otoscope, et qu'il ajoute « Allez, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles. » Yamina ne voit pas de mal. Ça la fait même plutôt sourire. Yamina ne voit pas non plus ce que les gestes indélicats du médecin traduisent. Elle ne se rend pas compte qu'il est brusque et expéditif. Parfois même, il la heurte en lui soulevant le bras pour prendre sa tension, mais jamais elle n'oserait le lui faire remarquer, comme si avoir mal était acceptable, comme si rien n'était grave la concernant. D'une certaine façon, Yamina est préservée. Elle ne saisit pas dans quelle géométrie le monde l'a placée. Son innocence la protège de la violence de l'attitude du médecin. Elle ne s'aperçoit pas du rapport vertical qui se joue dans le cabinet du docteur qu'elle respecte tant, pour son titre, ses années d'études et son savoir. Elle ne voit pas cette échelle invisible sur laquelle il se perche chaque fois qu'il s'adresse à elle. C'est à se demander si Yamina ne le fait pas exprès, car elle semble incroyablement sourde à la colère qu'il appelle. Après tout, peut-être a-t-elle choisi de ne pas se laisser abîmer par le mépris. Peut-être Yamina a-t-elle compris depuis longtemps que si elle commençait à relever la moindre chose, ça n'en finirait plus. Le père de Yamina a été un résistant, là-bas, en Algérie. Et si aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister. Mais la colère, même enfouie, ne disparaît pas. La colère se transmet, l'air de rien. Ses enfants, eux, ils n'aiment pas ça. Ils ne supportent pas qu'on s'adresse à leur mère comme si elle était absolument idiote, naturellement inférieure. Eux, ils savent qui elle est, ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. Ce jour-là, Anna a fait un scandale à la préfecture. L'agent d'État, derrière la vitre, se met à parler très fort en articulant lentement pour s'adresser à Yamina. On dirait qu'elle gronde une gamine, une histoire de documents manquants. Et Anna, qui est la plus sensible de la fratrie, lui fait d'abord remarquer « Elle n'est pas débile, c'est pas la peine de lui parler comme ça. » L'autre, protégée par une vitre de séparation blindée, par le rappel du texte de loi dissuasif en cas d'outrage, protégée par sa fonction, par le fait que personne n'a envie de revenir le lendemain faire cette foutue queue à la préfecture, l'agent, donc, ne daigne même pas regarder Anna dans les yeux. Elle fait « Pfft, eh oh, ça va pas commencer, hein ? C'est toujours pareil avec vous. » Il n'en faut pas plus pour que Anna s'enflamme. Il n'en faut pas plus pour qu'elle sente soudain le soufre s'emparer de tout son corps. Étrangement, elle se souvient de sa leçon de chimie au lycée sur le soufre. Il a pour symbole S, groupe des chalcogènes, élément insoluble. Anna pourrait en pleurer. Chaque fois qu'on se montre condescendant avec sa mère, il lui semble qu'elle rétrécit sous ses yeux comme un vêtement lavé à haute température.
On tourne les pages.
Nous y sommes. Anna, c'est de la nitroglycérine qu'il faut manipuler avec précaution. Yamina le sait, elle connaît sa fille. Mais Fabienne, qui l'ignore, en rajoute une couche. Je vous rappelle que vous vous adressez à un représentant de l'État. Anna prend feu. Elle est véritablement en combustion. Elle s'embraserait pour défendre l'honneur de sa mère. Je m'en fous que tu sois un agent de l'État. Tu crois que t'impressionnes qui ici ? J'en ai rien à foutre. Et puis, elle a remis un coup sur la vitre avec toute la tranche de son avant-bras. Je t'emmerde, sale grosse ! Le volet du guichet s'est refermé brusquement. Fabienne est allée déjeuner, laissant Anna dans ses flammes, songeant à se mettre en arrêt maladie. Yamina n'a que son amour à offrir à ses enfants.
Et là, on va voir justement que cet amour, il s'exprime essentiellement dans le séjour à la maison, dans la vie à la maison et dans la vie domestique. Yamina n'a que son amour à offrir à ses enfants. Peut-être que l'amour les apaisera. C'est en tout cas ce qu'elle pense. Avec un peu de chance, l'amour leur fera oublier les humiliations et les déchargera du poids des sacrifices. Alors, allons voir Yamina maintenant dans son intérieur.
Il fait encore doux pour un mois d'octobre. La fenêtre est grande ouverte et le rideau danse dans le courant d'air léger. Yamina est heureuse à l'idée de réunir tout le monde à sa table pour le déjeuner. Dans la cuisine, la cocotte siffle délicieusement. Il n'y a rien de mieux au monde que la cuisson sous pression. L'odeur s'est répandue dans tout l'appartement. Yamina a préparé de l'agneau et des haricots verts. Ses enfants adorent ça, surtout Omar. Si le bonheur avait une odeur, ce serait sans aucun doute celle de l'agneau qui mijote. Son mari s'est assoupi sur la banquette du salon, en regardant la télévision, la rediffusion d'un vieux western de 1966, Eldorado, avec John Wayne et Robert Mitchum. Les westerns, c'est ce qu'il préfère. Yamina lui retire délicatement la télécommande des mains et replace l'oreiller sous sa nuque. Brahim Taleb est encore beau. Sa peau a toujours le même éclat et ses rides sont comme des énigmes qu'on voudrait résoudre. Il ne ronfle pas. Yamina dit toujours qu'il dort comme un mort pieux. En venant d'elle, c'est un sacré compliment. Debout, au milieu du salon, elle constate fièrement qu'il n'y a pas un gramme de poussière sur les bibelots, pas un pli sur la nappe, il ne lui reste qu'à attendre ses enfants pour servir le repas. La table est déjà dressée. Yamina est penchée à la fenêtre et à travers sa gandoura bleue, la robe de maison traditionnelle, on devine sa silhouette fine, son corps raide. Du quatrième étage, elle observe avec tendresse des gosses qui jouent dehors à la balle aux prisonniers. Elle se souvient qu'hier encore, ses enfants jouaient sous la fenêtre avec l'insouciance, avec insouciance, et qu'elles criaient leur prénom pour les faire remonter à l'appartement avant la tombée de la nuit. Yamina soupire. Ses gamins lui manquent. Peut-être que ça ne vous frapperait pas immédiatement en la regardant, mais derrière Yamina, il y a une histoire, comme derrière tout un chacun.
Derrière Yamina, il y a une histoire, et en fait, il y a aussi l'histoire. Alors, avant de nous référer justement à cette histoire du passé d'Yamina, eh bien, on va écouter un peu de musique de ses origines, auxquelles on viendra tout à l'heure. Donc, de ses origines algériennes, on va écouter Raïna Raï. travail la musique algérienne par excellence. C'est ce qui nous permet d'introduire l'histoire de Yamina, l'histoire de Yamina qui commence avec ses parents. On est dans la province de Msirda, en Algérie, en 1949. Ça commence quelque part à l'ouest de l'Algérie. À première vue, on croirait un village abandonné. Des poules rousses errent en caquetant sous les yeux tristes d'un mulet attaché au tronc d'un figuier. Tout autour, il y a des champs d'orge. Le ciel n'a pas été clément cette année, malgré la ferveur des gens, et l'orge n'a pas beaucoup poussé. Ils ont prié pour la pluie, mais il n'est pas riche, l'orge. La petite Mechta est entourée de figues de Barbarie, ou plutôt de figuiers de Barbarie avec des figues, comme partout dans la région, les cactus parsèment les crêtes et les pentes. Il y a une lourdeur dans l'air qui noue les estomacs. La famine s'éteint il n'y a pas encore si longtemps, tout le monde s'en souvient, donc en fait, tout paraît encore très fragile. Peut-être qu'on a une sombre intuition, une intuition des ravages d'une guerre à venir, comme un ciel menaçant. Mais il ne pleut pas, il n'a pas plu assez. Et là, au milieu du douar, trône une maison de tlakt, l'argile prélevée sur le flanc de la montagne et mélangée à du son d'orge pour bâtir les murs. À l'intérieur, peu de mobilier, des nattes d'alfa posées à même la terre battue et des femmes qui s'agitent à leur tâche. La sueur perle sous leur foulard. L'une d'elles psalmodie, elle a une voix claire, calme, et si ce n'était les taches brunes sur ses mains, on ne devinerait pas son âge. En fait, c'est la seule à ne pas s'inquiéter. Bah oui, il en faut bien une, puisque c'est elle, la Kala du village, la sage-femme officielle. Non, elle n'est pas tendue, elle se montre rassurante, elle caresse la main de Rama, la jeune femme à la peau rose, à qui en fait on n'a rien expliqué. Les tatouages berbères se troublent sur le front de la sage-femme accroupie. Rama y voit flou à cause de la douleur, ça lui donne des hallucinations. Et elle fronce les sourcils en fixant le mur peint à la chaux. Et elle croit apercevoir des centaines de lézards qui grimpent en rang. En fait, ils ressemblent aux soldats français, ceux qu'elle a aperçus l'autre jour de l'autre côté de l'oued en train d'attraper des grenouilles. Ah, des gens qui mangent des grenouilles, c'est pas possible. Ce jour-là, elle a eu très peur. Elle a marché vite, son souffle s'est accéléré. Les soldats disaient des choses entre eux et elle les a vus montrer du doigt son ventre arrondi et tendu, en ricanant. L'un d'eux a sifflé et lui a fait signe d'approcher. Rama a imploré l'aide du Seigneur du mieux qu'elle pouvait. Elle ne connaissait pas les formules, mais enfin bon, elle n'est pas allée à l'école toranique, elle. Rama s'est approchée des soldats. Elle a durci sa figure, elle a pris l'air sérieux. Elle a appris à ne pas montrer sa peur, à la garder pour elle. C'est vrai, ils ont pris leur terre, mais ils n'auront pas sa dignité. À force, son visage a perdu de sa candeur, a gagné en gravité. Et cette gravité, elle la garde, elle la gardera pour toujours. Après un moment de silence, le soldat a bousculé Rama en le baragouinant quelque chose qu'elle n'a pas compris. Et le baluchon de vêtements qu'elle portait sur sa tête s'est renversé au pied de l'homme. Il a hésité un moment à les ramasser, un genre de compassion, mais qui ne lui a traversé que très furtivement le regard. Et puis il s'est ravisé qu'elle aille se faire foutre, elle a qu'à se démerder. Il ne l'avait pas vraiment fait exprès après tout. Il l'avait juste un peu chahuté, pas de quoi faire un drame. Et puis lui, il n'en a rien à cirer de l'Algérie, des indigènes, de toutes les horreurs qu'on lui a racontées. Ça fait déjà 19 mois qu'il est là. Il a hâte de rentrer à Brignoles, de plus en entendre parler de l'Algérie. Quand il a reçu sa feuille de route, c'était déjà un genre de cauchemar. Enfin bon, bref, Antoine, lui, tout ce qu'il voulait, c'était reprendre le garage de son père. Il adore ça, réparer des caisses. Il adore ça, récupérer des vieux tacos et leur faire une seconde jeunesse. Alors bon, depuis que les bicots ont commencé à se rebeller, évidemment, on envoie des gars dans son genre en Algérie et on les y laisse 24 mois. Mais lui, Antoine, il n'avait rien demandé. Hein. D'ailleurs, en fait, c'était plutôt un tendre, non ? Pas du genre à intimider les femmes. Là, ce jour-là, ce qu'il a fait, c'est vouloir faire rire les copains. Oui, c'était tout. Bon, c'est vrai, merde, on se fait chier dans ce bled. Et les copains, effectivement, se sont marrés en regardant la bougnoule toute ronde se pencher péniblement pour ramasser son linge. Antoine y a un peu repensé le soir au moment de se coucher. Il s'est penché sur le regard de cette femme, ses yeux cernés. Il a eu un peu honte de son geste. Mais bon, il a gardé son remords pour lui et il s'est endormi. Rama avait passé une partie de la journée à laver, à faire sécher les vêtements au soleil. À cause des mangeurs de grenouilles, ils étaient sales à nouveau. Il faudra y retourner le lendemain matin et tout recommencer. Alors là, dans la maison, la jeune femme aux joues roses et pleines, qui a encore l'âge de jouer, eh bien non, elle est là pour accoucher. Elle a sautillé en riant pendant bien des années. Elle a vérifié autour d'elle que les femmes ne la regardaient pas. Elle a sauté dans l'eau, elle a sauté dans l'oued, elle a sauté dans les mares. C'est vrai que l'eau, c'est une sensation délicieuse. Mais l'enfance est finie. Elle est une femme. Elle est une femme et devenir d'une femme tout d'un coup, ben oui, c'est une femme en ce moment, pendant son accouchement. La future belle-mère de Rama avait dit, en regardant la jeune femme frotter les habits au bord de l'oued, « Ce sont de jolis mollets, je lui ferais bien prendre cette fille, mon garçon. » Eh oui, de beaux mollets, épais et rebondis pour un garçon, c'était un critère de beauté en ce temps-là. Et maintenant, allongée sur la natte, face à la Kala qui place Molti, Rama essaye de revenir à elle. Il y a si peu de souvenirs agréables à évoquer pour ne plus penser à la douleur. Elle pense aux lézards, elle pense aux soldats, elle a probablement un peu la fièvre. Et puis la souffrance lui transperce le ventre. Ah, Rama pense vraiment qu'on lui arrache son âme. Il faut imaginer un cri. Le sien, celui de l'enfant, un cri qui fend la nuit noire, un cri qui se reflète sur la lune puis se cogne au ciel avant de se briser, de retomber comme des milliers de petites larmes de plomb. Un cri qui se répand dans le Douar, un cri qui réveille les villageois. Leurs âmes vagabondes regagnent leur corps et se rendorment. Et pendant ce temps, l'enfant est né. L'enfant est né, c'est une fille. Une fille au destin incertain, comme celui d'un pays à l'aube d'arracher sa liberté. Yamina est née dans un cri. Alors, pourquoi choisir maintenant de mener une existence silencieuse? Yamina, on la retrouve un petit peu plus tard. Yamina, en Algérie, en 1954, est une fille maigrelette. Ses grands yeux couleur miel sont entourés d'une épaisse frange de cils noirs. Ils semblent avoir été dessinés pour ne voir que la beauté du monde. Un vieux ruban orne ses cheveux frisés et elle porte une petite robe abricot au tissu élimé. Yamina est habituée à marcher, même sur les épines, elle est pieds nus et elle court sur la terre et elle dévale les pentes rocheuses. Rama confie déjà à sa fille des tâches ménagères simples. Elle la trouve douée, elle a remarqué que pour une fillette de son âge, ses gestes sont incroyablement précis et habiles. Elle est vraiment débrouillarde, elle est si débrouillarde qu'on l'envoie au puits toute seule. Yamina parle peu, ne pleure pas, s'endort sans protester. Elle ne fait jamais honte à sa mère, jamais honte à sa famille. C'est une brave enfant qui aime les bêtes. Elle passe beaucoup de temps à caresser les chèvres dans l'arrière-cour. Et quand il a fallu vendre le veau, elle s'est accrochée au cou de l'animal en pleurant. Elle ne supporte pas les séparations d'avec ses petits amis préférés. Depuis quelque temps, la petite Yamina s'est mise en tête de compter les étoiles. Et oui, elle compte, elle va à l'école. Et les étoiles forment un toit immense au-dessus de sa tête et au-dessus du Douar. Alors, chaque nuit, elle pointe le ciel du doigt comme si elle pouvait le toucher. Et elle compte jusqu'à l'endormissement, jusqu'à l'étourdissement. S'endormir dans la cour en été, dans la fraîcheur du soir, c'était une consolation délicieuse pour avoir passé une journée à travailler sous un soleil écrasant. Maintenant, c'est devenu imprudent. C'est vrai que ces soldats français, quelquefois, ils font irruption à tout moment dans les Meshta. Alors le grand-père a dit qu'il fallait que les femmes couchent à l'intérieur. Ah oui, maintenant on dort à l'intérieur. Le grand-père, le vieillard osseux, non, il ne menace, il n'est pas une menace considérable aux yeux de l'armée coloniale. Pourtant, il faut se méfier. Un jour, alors que Jedi Ahmed avait poussé Moussa dans les bras, avait porté Moussa dans ses bras, c'est-à-dire le petit frère de Yamina, né quelques mois plus tôt, les soldats étaient entrés brutalement. Ils étaient une dizaine. Yamina regarda leurs bérets, leurs chaussures énormes, leurs peaux luisantes, leurs treillis épais. Elle les avait vus pousser la porte à coups de pied et faire comme chez eux. Elle a vu leurs grandes enjambées, elle les a entendues parler fort, avoir des gestes brutaux, fouiller partout. Elle a senti la peur venir, la peur qu'ils inspiraient. Et puis, elle a observé la figure blême de sa mère. Éblouie par le soleil, Rama était là, elle n'avait pas plié, elle avait durci son visage, c'était naturel. Et à côté de Rama, les tantes et le grand-père, donc avec l'enfant dans les bras, étaient debout contre le mur, stoïques. Yamina avait approché, s'était jointe au groupe. Elle avait compris qu'il fallait s'aligner, elle s'était collée à sa mère. Et le chef avait crié « Et vos maris? Ils sont où, vos maris ?» L'une après l'autre, les femmes avaient répondu sur le même ton « França, França !» Ce qui avait agacé l'officier. Il avait vidé nerveusement un petit sac de jute de son charbon au milieu de la pièce. Les soldats avaient quitté les lieux, mais le plus jeune s'était arrêté devant Jedi Ahmed et il avait contemplé Moussa un moment. Le bébé avait l'air endormi dans les bras du vieillard. Le soldat avait saisi lentement son arme et il l'avait dirigée vers le front du nourrisson. Tout le monde s'était raidi, mais personne n'avait bougé. Rama, immobile contre le muret, observait la scène et se retenait de hurler. Elle retenait son cri de mère qui voyait l'enfant visé par une arme. Jedi Ahmed avait regardé les femmes et il avait dit aux militaires « Mais c'est un bébé !» Le soldat a vu en Moussa un futur danger, une menace. Il a dit à Ahmed, « Un bébé, hein, tu parles, un bébé qui va grandir et qui va devenir un félag. » Mais il avait baissé sa mitraillette. Ce jour-là, par miracle, le jeune Français avait retrouvé ses esprits. Mais tandis que le convoi de Jeep s'éloignait, Rama avait perdu connaissance au pied d'Yamina. Et calmement, Yamina était allée lui chercher de l'eau sucrée pour la faire revenir à elle. Ce jour-là, l'enfance de Yamina s'est terminée. L'enfance, oui, l'enfance se termine, la petite histoire continue, la grande histoire continue aussi. Et on va retrouver Yamina un petit peu plus tard pour en fait son premier exil. Parce que comme on l'avait lu rapidement dans un extrait, eh bien le père de Ramina, il n'est pas en France, non, il est rebelle, il est caché dans le maquis. Donc le danger se rapproche et la famille émigre au Maroc. Donc premier exil, c'est ce que Françoise va nous lire. On est à Hafir, dans la province de Berkane, au Maroc, en 1956.
Il venait de quitter l'Algérie, et c'était comme dire au revoir à une mère. Voilà donc le premier exil, la genèse d'une vie de tiraillement. La famille est partie juste après la prière de l'aube, à dos de mule. Dans la besace de Rama, il n'y avait rien d'autre qu'un pain de seigle, de l'eau, un peu de sucre et deux oignons crus. Ils n'ont rien laissé d'important derrière eux, de toute façon, si ce n'est leur histoire, des lambeaux de leur chair, et aussi quelques fantômes, sans doute des milliers, mais il était trop tôt pour les compter. Yamina avait encore sommeil. Il faisait froid et on entendait au loin les hurlements des chacals dorés. La fillette faisait mine de ne pas avoir peur. Bien assez tôt, elle avait appris à étouffer ses émotions. À mesure que le convoi familial s'éloignait, la maison d'argile dans laquelle était née Yamina rétrécissait et finit par disparaître derrière les cactus. Il y avait aussi ce figuier sur lequel elle avait grimpé un bon nombre de fois. Il lui avait semblé qu'il les implorait de l'emporter, mais Yamina savait déjà ce qui arrive lorsqu'on déracine un arbre. J'ai dit à Ahmed, essuyez ses yeux mouillés par sa rasa, son turban jaune satiné. Chacun de ses mouvements était pénible. Les mains du vieillard étaient maigres. Elles avaient pourtant bâti tant de choses, et on n'aurait pas parié là-dessus en les voyant trembler. La guerre, la faim, ce voyage, tout ressemblait à une malédiction, comme celle qui frappe les héros des contes anciens, ceux qu'on raconte aux enfants des villages une fois la nuit tombée. De l'autre côté, au Maroc, Yamina aurait juré qu'ils étaient encore à M'Sirda. Il n'y avait rien de bien différent, seulement ici, ils n'étaient plus chez eux. Ici, Yamina n'oserait plus grimper aux arbres. La famille s'était installée chez la mère de Rama, qui les avait accueillis dans sa modeste maison où tout le monde couchait dans la même pièce. Ce village, Afir, portait un nom berbère qui signifiait « trou ». Le nom des lieux et des choses a une importance. On ne le dira jamais assez. Ce n'était pas un hasard s'ils avaient atterri là pour être engloutis par les trous et si ces années n'en finissaient plus. Ce n'était que le début de leur cavale de misère. Le père de Yamina était au front. Elle en oubliait presque son visage. Parfois, elle se concentrait pour imaginer un instant ses yeux bleus, et alors seulement elle se sentait apaisée. Il faut dire qu'il était sacrément bel homme. Yamina n'avait jamais vu plus beau visage que celui de son père. Son regard et ses épaules, ses longues jambes, son front fier, sans aucun doute, tout était assemblé harmonieusement. Il était venu au monde pour devenir un héros. Il en avait toujours eu l'allure et le cran. Yamina racontait aux petites filles de la rue que son père, à lui seul, était capable de libérer un pays tout entier et qu'il avait assez de bravoure à lui seul pour aider tout un peuple à s'affranchir. Et à celle qui osait la traiter de menteuse, Yamina flanquait une raclée mémorable. Elle se battait parfois avec des petites Marocaines sur la route de la madrassa, et dans ces moments-là, il lui semblait de venir aveugle. La fillette perdait tout contrôle, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle ne cessait de frapper jusqu'à voir l'autre fillette dégouliner de larmes, de sang ou se pisser dessus. Elle ne lâchait que si l'autre avait payé, que si l'autre avait honte, si elle la suppliait de la laisser repartir. Il fallait qu'elle demande pardon, à genoux. Là seulement, Yamina reprenait ses esprits. Cette violence était nouvelle dans le corps de la fillette. Elle se sentait effrayée par cette chaleur aveuglante qui envahissait ses membres. Sa mère avait beau la corriger, elle remettait ça chaque fois que l'occasion se présentait. « Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi es-tu devenue si dure ?» Accroupie dans un coin de la pièce, par un après-midi chaud, elle observe sa mère, qui, après l'avoir fessée de toutes ses forces, s'est remise à coudre. Elle coud des drapeaux, vert, blanc, rouge. Chacun des drapeaux, cousu par Rama, avec des chutes de tissu récupérées, incarne un espoir, celui qu'un jour elle pourra en agiter un fièrement au-dessus de sa tête, en direction d'un ciel clément. Ce jour viendra bientôt. Yamina ne se lasse pas des gestes de sa mère, de ses mains fines et délicates, l'index posé sur le pouce, les trois autres doigts en l'air. Chaque fois qu'elle tire l'aiguille vers le haut puis vers le bas pour repiquer le tissu, elle a l'élégance d'un chef d'orchestre, la grâce d'une danseuse égyptienne. Elle l'a promis à ses enfants. Bientôt, ils retrouveront leur pays, ils pourront revoir leur maison et y vivre en paix. Yamina n'a de cesse de demander. « Et le figuier, il sera encore là, le figuier ?» Pendant ce temps, d'autres enfants s'ajoutent à la liste des bouches à nourrir. Deux des frères de Yamina sont nés en exil. Mohamed Madouri, le père de famille, réapparaît miraculeusement de temps à autre. Il revient du front, ne reste pas longtemps, quelques jours au plus, le temps de recevoir les nouvelles consignes. Il fait surtout savoir qu'il est vivant et que la libération est proche. Mais Mohamed Madouri n'embrasse pas sa fille. Il ne la prend pas dans ses bras non plus. Simplement, avant de repartir, il la tient par les épaules un instant et la regarde fixement. Yamina plonge dans ses yeux et croit comprendre. Elle interprète ses regards graves comme un encouragement, comme une obligation de rester debout. Dans ces regards-là, elle se sent aussi importante qu'un fils. Mohamed Madouri voulait que ses enfants apprennent à lire. C'est ce qu'il lui était resté de ses années à Paris. Dans les trains, dans les jardins publics, aux terrasses des cafés, partout les gens lisaient des livres. Lui, l'indigène solitaire, né à Boukanoun, le berger analphabète, qui avait abandonné ses chèvres à leur montagne pour faire maigre fortune en métropole. Regardez les yeux de ces femmes plongées dans des romans, il les observait mouiller le bout de leur index pour tourner les pages, ça le fascinait. Pour lui, il était probablement trop tard, mais un jour il aurait des enfants et eux, il se l'était juré, eux sauraient lire. Lorsqu'il lui a fallu rentrer, il n'a pas oublié. Le pays serait bientôt indépendant et il fallait que la première génération libre soit instruite. Yamina ira donc à la madrasa. Elle fait partie des rares filles à fréquenter l'école coranique d'Afir. Elle prend la route avec son petit frère Moussa, tandis que le village est encore plongé dans l'obscurité. Le Fki, vieil instructeur presque sourd, est sévère avec eux. Il y a cette planche en bois sur laquelle les enfants écrivent à l'aide d'un bambou fendu en deux à son extrémité. Yamina se rappelle encore comment on faisait brûler la laine. Comment, en ajoutant un peu d'eau aux cendres récoltées, on obtenait de l'encre. Inlassablement, on inscrivait les versets sur la planche, et tant qu'ils n'étaient pas mémorisés à la perfection, il fallait recommencer. Yamina sait, depuis toujours, que l'apprentissage ne se fait pas sans peine. Parfois, dans la maison de la grand-mère de Afir, au milieu de la nuit, se tiennent des réunions secrètes. La petite fille accroupie espionne en se collant au mur, ce qui laisse des traces de chaud sur son chemisier bleu, celui récupéré dans les lots puants de la Croix-Rouge un jour de Rayatma. Le ravitaillement est mieux qu'une fête pour les enfants des réfugiés d'Algérie. Les femmes inconnues donnent des instructions à voix basse. Ne vous disputez pas, soyez discrètes, ne vous faites pas remarquer. Veillez à ce que vos enfants se tiennent bien. Soyez de bonnes voisines. Ne parlez pas à vos maris. Ne parlez pas de vos frères. Ne dites rien sur la guerre. Rien sur les actions des combattants. Restez invisibles. Yamina a entendu tous ces mots et elle a senti que rester invisible était une question de survie. Pour toujours, elle gardera la tristesse profonde de ceux qui ont le sentiment de tout avoir abandonné, alors même qu'il ne possédait rien. Pour toujours, elle gardera cette illusion terrible qui laisse croire qu'on peut quitter un lieu, y retourner et retrouver les choses comme on les a laissées.
L'exil, oui, c'est ce paragraphe très beau, c'est vraiment une très belle description de l'exil, ou plutôt une très belle explication du sentiment d'exil. Et l'invisibilité que Yamina acquiert peut-être à ce moment-là, comme les résistants l'y encouragent, elle et sa famille, ce sentiment d'invisibilité, c'est peut-être ce qu'elle voudra garder et inculquer à ses enfants dans le présent de leur installation en France. Au contraire, c'est ce que Anna réfute. Vous vous souvenez, tout à l'heure, Anna, la fille puis née, de Yamina, Anna qui ressemble à du soufre, ou à de la nitroglycérine, Anna, elle refuse d'être invisible. Donc la discrétion, bien sûr, c'est celle de Yamina. L'invisibilité, c'est celle qu'on lui avait souhaitée et qu'elle a suivie. Au contraire, le fait de prendre feu et de refuser les formules toutes faites et de refuser l'humiliation, ça sera ce que feront en effet les enfants et en première ligne Anna. C'est assez intéressant parce que Faïz Aghan a choisi, on l'a vu tout à l'heure, pour introduire le roman, une citation de James Baldwin Et James Baldwin, c'est beau être un romancier américain totalement reconnu, loué pour ses romans, etc. Il a écrit ses grandes œuvres dans les années 60. Et en tant que noir aux États-Unis, j'ai relu ce matin les critiques officielles qui étaient parues dans les journaux, ou plutôt les magazines bien-pensants de New York et de Washington à propos des œuvres de James Baldwin dans les années 60. C'est d'un mépris et de ce qu'on pourrait appeler un paternalisme absolument effarant. Ce que disent les critiques officielles des romans de James Baldwin, c'est du genre « Ah oui, pour un noir, il écrit bien ». Alors effectivement, ils n'écrivent pas ça, mais c'est vraiment ce qui transparaît au travers des lignes. Et ce paternalisme offensant et humiliant, je pense que c'est précisément ce que le personnage de Yamina a ressenti pendant toute sa jeunesse, déjà dans l'Algérie coloniale, puis dans la banlieue, on pourrait dire aussi coloniale, de Paris. Et c'est précisément ce que refuse Anna. Alors, il y a une toute petite scène de Anna que j'ai trouvée très drôle. On revient au présent avec le personnage de Anna... au Lila, dans le 93-260. Et Anna, elle a rendez-vous avec un garçon. Alors Anna, justement, puisqu'elle elle renonce au contraire à l'effacement, à la discrétion, elle est gentille hein, avec le garçon avec qui elle a rendez-vous. Mais l'auteur, Faïz Aghen, imagine quand même qu'elle pense des choses... pas très orthodoxe sur les hommes pour une jeune fille, entre guillemets, bien élevée et qui devrait, comme sa maman, faire preuve de discrétion. Anna est arrivée au rendez-vous un peu plus tôt que prévu. Elle a toujours eu de l'avance, en fait, Anna. C'était un bébé prématuré, c'était une surdouée et maintenant c'est une adulte indignée. Et en tant qu'adulte indignée, elle dit rien, hein, elle est discrète quand même. Mais elle remarque que, par exemple, au deuxième rendez-vous avec ce jeune homme, Karim, elle remarque qu'il a un jean slim, bootcut, mais que ce jean, il est un peu collant sur les hanches. Et que pour un garçon, il a les hanches un peu rondes quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, un homme qui a une dégaine de danseuse orientale, vedette d'un restaurant marocain de province? Bon, enfin, il a quand même un peu de charme, ce garçon. Par exemple, il a de l'ambition. C'est rare de voir ça. Une vraie ambition, simple, mais sans gêne, sans ostentation. Juste la volonté de réussir. Il a monté sa première entreprise. C'était une boîte de sous-traitance dans le domaine de l'entretien. Il emploie des femmes de ménage. Bon, bien sûr, avec un paternalisme redoutable. Mais enfin, bon, au moins, il a son entreprise. Et puis après, il a lancé une sandwicherie halal bio. C'était une bonne idée. Donc, c'est bien fréquenté, sa sandwicherie. Il y a plein de jeunes qui veulent manger halal bio. Alors, c'est l'intégration réussie. Et bien sûr, là, maintenant, il drague Anna. Peut-être pas une femme blanche, mais une femme algérienne, éduquée. Rebelle, bien sûr, donc qui sait penser, qui sait dire ce qu'elle pense et qui pourra faire bien quand il aura réussi dans ses entreprises. Alors, c'est un petit peu ce que lui reproche Anna, cette espèce de mépris souverain de tous les autres que Karim transporte avec lui. Parce que finalement, c'est ça, quand on réussit, on trouve toujours assez rapidement que, entre guillemets, les autres sont des cons. Enfin bref, elle n'est pas vraiment tombée amoureuse de Karim, l'entrepreneur aux hanches pulpeuses. Et Anna, quand elle le voit arriver, elle se moque un peu de lui dans sa tête. Oui. Et c'est le problème. Elle se lasse facilement des choses, des gens. elle a suffisamment d'ironie pour les autres. Donc Karim, oh bah oui, bah Karim ne va pas faire long feu. Surtout avec ses goûts musicaux de merde, là, j'adore la funk, j'écoute que ça. Non mais attends, c'est quoi ça la funk? T'es un banlieusard? T'es quoi là? T'adores la funk? Et puis, ah oui, pour tes vacances? Ah bah t'es parti en Thaïlande. Ah bah oui, pour l'originalité, on repassera. Pas besoin d'en dire plus. Anna a déjà tout deviné dans les moindres détails. Karim, il est parti en Thaïlande avec des copains. Il a laissé en Thaïlande pas mal de dollars. Il a laissé pas mal de billets, en tout cas. Il est revenu avec de bons souvenirs, bien sûr. Il s'est forgé avec des copains en Thaïlande un genre de rite initiatique. Pardon. La Thaïlande a fait d'eux des hommes. Alors maintenant, l'homme Karim, bah oui, il porte des jeans slim, bootcut, qui épousent sensuellement la forme de ses hanches. Tant pis pour Anna, ou plutôt tant mieux, parce que maintenant, elle va s'intéresser à un autre garçon. Karim, c'est un épisode dans sa vie. Anna, c'est une fille libre. Et à 34 ans, eh bien, elle va chercher ailleurs. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez que Faïza Ghen, elle est toute douce et tendre avec Yamina et la discrétion, avec l'histoire aussi, et au contraire, beaucoup plus ironique avec le présent. Alors, on va se faire plaisir, on va se faire la semaine prochaine une deuxième séance de lecture du roman de Faïza Ghen, la discrétion, et on retrouvera donc la douce Yamina et la beaucoup moins douce Anna, avec grand plaisir. J'espère que vous partagerez ce plaisir, parce que c'est vrai que la langue de Faïza Ghen, c'est souvent un grand plaisir. Je ne sais pas si le générique est prêt. Un petit générique pour se quitter. À bientôt, à la semaine prochaine.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.